Ça, c'est le fragonard plus jeune. Le fragonard plus tard, quand il sera néoclassique, il va tout rentrer. C'est celui qui est surtout connu pour le verrou. Mais le verrou, moi, c'est pas du tout ce que je préfère de fragonard, parce que c'est un peu un fragonard qui est mort, hein, au niveau de sa touche. Alors là encore, hein, à chaque fois, j'ai mis deux types de production, parce que... Et la liberté aussi. La liberté, c'est très important, parce que regardez la façon dont il traite la main et la façon dont il traite le regard. Ça aussi, cette liberté, c'est évidemment, bah, c'est le principe même des libertins, de la liberté individuelle, de l'aspiration à la liberté. Donc d'abord, elle se traduit aussi dans la liberté de la touche aussi. Pas que de la touche, mais aussi de la façon dont il va traiter. Donc il y a être libre avec son corps, avec l'esprit, hein, se libérer aussi par l'esprit, par le corps, par la sensualité, par la touche. Donc il y a cette idée d'une sorte de preuve, hein, qu'on peut être libre en s'écartant y compris de certaines normes. Alors là, on va le retrouver y compris dans ces portraits masculins, qui sont presque toujours campés de la même manière. Alors là, ça c'est un soldat, alors là, il y a l'épée au premier plan, on dirait Noël Roquevert. On est une génération, tout le monde connaît Noël Roquevert. Hein. On dit ça à des élèves, ils connaissent pas. Mais donc le militaire, la bouche pincée, etc. Mais regardez le flamboiement, y compris très très clair, de son vêtement. Hein, c'est assez clair. Là, le musicien, là aussi, c'est, regardez la touche des vêtements. La composition paradoxale de Fragonard, c'est un triangle parfait, mais en même temps, si vous regardez bien, il y a une sorte de triangle qui s'appuie sur le point en bas à gauche et qui ouvre totalement, qui s'évase complètement vers la droite. Hein, comme s'il y avait deux triangles. Une pyramide, un état de fait, et puis en même temps, dans cette espèce d'état de fait, quelque chose qui aspire à sortir du cadre. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvera très longtemps dans la composition, jusque chez Géricault. Hein, cette façon à la fois de structurer, comme s'il disait, bon voilà, on respecte les règles académiques, on va faire un truc pyramidal, la lumière à gauche, l'ombre à droite, c'est centré, c'est symétrique. Mais là-dedans, on fait casser quelque chose et on ouvre totalement. Alors cette ouverture, c'est comme une aspiration, alors là, vous la voyez encore très clairement, j'invente pas, hein, cette façon aussi de s'appuyer sur le point droit et d'ouvrir, comme s'il y avait une aspiration au sens strict vers un ailleurs. Là, c'est avant la Révolution française. Il s'agit, d'ailleurs, je me demande s'il ne s'agit pas de d'Alembert ici. Non, c'est l'abbé de Saint-Nom. L'abbé de Saint-Nom, alors, il y avait des abbés qui étaient très modernes, hein, très peu religieux. Et là, vous voyez les couleurs bleu, jaune, rouge, le flamboiement, y compris, on a presque l'impression d'avoir flamme, le visage résolu et joyeux, l'incarnation, presque tous, ce sont des figures très vivantes, on verra plus tard, quelque chose de ferme et de décidé, que ce soit sur les femmes avec l'étude ou les hommes ici, hein, quelque chose qui s'appuie très clairement, qui est campé, et en même temps dynamique, qui cherche à sortir. Hein. Alors, c'est peut-être un petit peu la surinterprétation de ma part, enfin, sauf que si vous voulez, on sait très bien que la plupart des philosophes, des penseurs, et des artistes français de cette époque-là aspiraient effectivement à du changement, hein, à de la liberté. Étaient confrontés à censure, emprisonnement, lettres de cachet, etc. Puis il y a aussi une société étouffante et qui enfermait un petit peu sa richesse, hein, qui était cet ancien régime est effectivement aussi fragile. Alors là, regardez l'inspiration, pareil, hein, appuyée là aussi. Les livres, quand ils sont peints par Fragonard, ils ont de la chair, ils sont vivants, ce n'est pas des trucs de papier plat, hein, ils bougent et ils sont actifs. La façon dont ils s'appuient fermement sur la table, la plume, le regard toujours, l'ouverture. Au niveau de la mode aussi, on voit que c'est des gens, manière de s'habiller. Ils laissent tomber la perruque, ils ouvrent le col, il n'y a plus de cravate, il n'y a plus trop de dentelle, etc. C'est quelque chose qui aussi, là aussi, s'ouvre un peu. Le corps cherche aussi à s'évader des vêtements. Alors, Chardin, à sa façon aussi, dégagé de la mode avec son espèce d'intimité. Alors là, je sais, j'ai trouvé récemment la force, y compris le fait de bien vivre. Hein. La plupart du temps, on va voir, y compris avec des gens comme Diderot, etc., qui va être peint par Fragonard, cette idée de bien vivre, de les plaisirs, y compris de la chair et du corps, pas de perruque, hein, les cheveux en arrière, comme s'il y avait du vent, et la touche. Alors là, par contre, je ne sais pas qui c'est celui-là, j'ai découvert récemment. Le duc d'Harcourt. Alors ça aussi, vous avez une aristocratie qui est un peu aussi moderne. Hein. On verra bien à la Révolution française, il y a vraiment des aristocrates qui étouffaient aussi, y compris dans les castes et la structure de la société. Là, c'est un document qui n'est pas très bonne qualité, je ne le connaissais pas. Hein. Collection privée, hein. Là aussi, c'est, en fouillant, on trouve des choses qui sont dans les collections privées. Il y a des gens qui ont des trucs pas mal chez eux. Et il faudrait sans doute l'éclairer un peu, parce que les couleurs doivent être beaucoup plus vives. Un jeune acteur. Et là, vous avez justement Denis Diderot. Alors, c'est pour ça que je fais le lien aussi, évidemment, avec les philosophes. C'est que Diderot, ici, c'est peut-être la représentation la plus juste d'un Diderot. Alors, cette fois-ci, il regarde sens, hein, mais son livre, regardez, il le tient. C'est pas, genre, l'encyclopédie, l'homme, le philosophe, l'amateur d'art, un des premiers matérialistes, quelqu'un qui se dégage théoriquement et philosophiquement, y compris de la religion. Donc, vraiment un esprit qui essaie d'être libre, qui a été emprisonné, etc. Bon, vous avez donc une figure avec aussi de l'humour, quelqu'un qui osera aussi aborder sexualité et érotisme de façon très claire dans ses écrits et ses pièces de théâtre, etc. Donc vous avez là, effectivement, un esprit, alors, plus de perruque, même pas de jabot, tout juste un col ouvert. Et puis là encore, hein, on dit que Diderot était aussi un très bon vivant, amateur de vin, etc. Donc, et vous avez là, toujours peint par Fragonard. Donc il rentre parfaitement dans cette catégorie des portraits, avec toujours la structure pyramide et ouverture vers la droite. Alors vraiment, voilà, ça c'est autre chose. Alors, la liseuse, ça c'est un Fragonard entre les deux, qui est aux États-Unis, qui est très connu, qui est un peu plus sage, hein, mais très grand, superbe travail de couleur, hein, de touche. Et alors là, on a quelque chose de plus calme, mais cette idée aussi d'une jeune femme à l'étude. Hein. Et ça, c'est sachant qu'elles ne vont pas à l'école, il n'y a pas de formation pour elles, elles sont souvent minorées, etc. Molière s'était moqué des femmes, enfin moqué. Avoir la question des femmes savantes ou des précieuses ridicules, etc., c'est qu'il y a quand même aussi une aspiration massive, effectivement, des femmes à l'étude, le savoir, la philosophie, la culture, la création, etc. Donc il y a vraiment aussi des forces en jeu, hein, même si elles ne se traduisent pas toutes, on va dire, socialement et dans les structures sociales. Alors Diderot et Fragonard, et il y a une sorte de cohérence. Alors voilà Diderot peint par Van Loo, hein, donc ça vous montrer aussi les différences qu'il y avait aux mêmes époques. Le même philosophe, pas autrement, Van Loo ou Van Loo, je ne sais pas exactement. Il y a la même structure, vous avez vu, etc., mais il n'y a pas du tout la même liberté. Que, hein, vous voyez la grande différence picturale. Hein. Là, on est beaucoup plus sage, y compris les papiers, le costume. Alors, il a peut-être un peu plus jeune. Hein, ici, donc, on a peut-être cette idée aussi d'une peinture qui est peut-être un peu antérieure, avec toujours, vous voyez, cette, l'académisme aussi qui se traite dans. Vous avez des normes, et c'est drôle de voir comment les artistes jouent avec les normes, comme par exemple ici dans l'eau. Et. Bon, alors ça, c'est. Je passe greuse, je ne sais pas. Alors, à propos des philosophes, justement, et du portrait, par exemple, voici d'Alembert, qui était un camarade et comparse de Diderot pour l'encyclopédie, mathématicien, puis. Vous avez des entretiens entre Diderot et d'Alembert qui sont remarquables aussi, donc c'est vraiment un complice. Et ici, peint par Maurice Quentin de la Tour, un Maurice Quentin de la Tour qui est un très grand pastelliste, qui se rapproche d'ailleurs de Rosalba Carriera, qu'on avait vu l'autre fois, cette grande pastelliste italienne, vénitienne, etc. Donc vous avez aussi, en fait, c'est un petit monde aussi, ces artistes-là. Ça, c'est un pastel. Alors là aussi, il y a l'art du pastel. Alors, virtuosité des pastellistes français et vénitiens, on voit souvent une des dominantes un peu bleues, comme ça. Alors le pastel est plus fragile, donc c'est souvent aussi un portrait plus intime et plus doux, parce qu'il y a peut-être moins de gestualité que par exemple ici. Donc, les philosophes. Alors, Voltaire, évidemment, toujours par Quentin de la Tour, hein, Maurice Quentin de la Tour, et vous voyez donc qu'il y a une connivence entre certains artistes et siècle de lumière et une certaine pensée. C'est ça qu'on peut, sans faire de surinterprétation, associer les aspirations à des libertés de pensée, à une modernité, y compris du savoir, dans les encyclopédies, dans le matérialisme, dans l'érotisme, dans un certain libertinage, une certaine liberté chez Voltaire, évidemment, chez Diderot. Alors, aussi regarder, alors Quentin de la Tour, ça ce sont des autoportraits d'une modernité aussi incroyable, parce que là, et avec ce sourire.
C'est presque une photo.
Oui, il y a de la joie. Voilà. Et là, vous voyez aussi ces gens-là.
C'est le fille.
Que ça soit, que ça soit Diderot, que ça soit Voltaire, que ça soit Quentin de la Tour, tout, vous avez une certaine joie. C'est que là, ce sont des corps et des pensées joyeuses. La liberté ici, il n'y a pas du tout le cynisme, il n'y a pas cette espèce de violence ou d'abus ou de mélancolie qu'il y avait chez Watteau. Il n'y a pas non plus cette espèce d'austérité un peu pesante qu'il peut y avoir chez Chardin, qui est fort. Mais là, il y a vraiment une énergie intérieure. Hein, et ça se voit très très clairement. Et là, le sourire de Voltaire, c'est connu dans les sculptures, etc., qui est assez remarquable. Hein, l'ironie, cette espèce de distance dans un monde, justement, où tout est sérieux, codifié, etc. Alors, les autoportraits de Quentin de la Tour sont remarquables. Alors, évidemment, quand il y a des commandes, là, zut en plus, c'est la deuxième femme de Louis XIV. Non, je crois que c'est la Pompadour. Alors, évidemment, attention, les frontières sont, on sait bien, hein, les frontières sont pas... Il n'y a pas d'un côté les philosophes et de l'autre les aristocrates. La cour, dans la cour, vous avez aussi des gens cultivés, intéressants, etc. Et ouverts. Hein. On verra même Marie-Antoinette qui avait auprès d'elle Anne Vallière-Coster. Pompadour et Quentin de la Tour aussi se fréquentent. Vous avez donc des échanges comme ça, qui sont. Alors Rousseau, toujours pas Quentin de la Tour. Vous voyez donc, on a vraiment ici, alors que. Voltaire, Rousseau et Diderot ne s'entendaient pas. Rousseau était complètement parano, presque à juste titre, etc. Mais vous avez quand même, là encore, une société qui se reconnaît, des gens qui se reconnaissent entre eux quand même, et avec des artistes qui gravitent. Hein, Quentin de la Tour, Van Loo, Fragonard, sont très proches de ces penseurs des Lumières. Alors si, Quentin de la Tour, toujours... avec toujours là, on a vraiment l'ironie, la vie exceptionnelle, hein, y compris le costume. Alors là, et lui, il est totalement libéré de toute norme. Il peut faire le portrait de la Pompadour, alors là, la norme totale, mais lui, dans l'intimité, il se voit complètement libre et en dehors de toute contrainte. Hein, donc là, les autoportraits d'artistes ici, celui-là était exceptionnel. Par contre, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, à chercher, mais il est très très beau et presque hors du temps. Tellement il est vivant et justement déconnecté des conventions sociales. Alors il est quand même dans la représentation, et regardez, il est à un œil de bœuf aussi. Alors, ça, c'est même comme s'il sortait de l'œil, il sort du cadre, enfin, c'est d'une intelligence exceptionnelle, et puis ce fait de sourire, de complicité entre lui et nous, c'est vraiment magnifique. Alors là aussi, ce qui est très beau, c'est que quand on a la tour. A été le maître de Marie-Suzanne Rollin, qui elle aussi est une grande pastelliste, mais alors évidemment oubliée comme presque toutes les femmes artistes. Et là vous aviez. Et là vous avez quelque chose qui est très beau parce que elle se représente en train de copier, avec aussi de la joie. Regardez son sourire, elle est joie, elle est en train de copier l'autoportrait de Quentin de la Tour pour elle-même, de son professeur, avec là aussi une grande joie, une grande complicité, et en plus en pleine action, hein, en train de tailler ses pastels, etc. Alors Marie-Suzanne Rollin, la voilà, hein, c'est un autoportrait, hein, ça aussi, vous avez donc une femme d'un talent absolument exceptionnel, alors ça aussi, ce n'est pas un pastel, c'est une peinture. Alors, il y a souvent un enjeu ici aussi, c'est de prouver ce dont elle est capable. Vous avez souvent aussi cette idée-là et cet enjeu-là, on l'a vu souvent dans beaucoup d'autoportraits de femmes, hein, qui avaient souvent peu de commandes et qui se retrouvaient presque contraintes à se faire en autoportrait. Alors vous avez quand même cette idée qu'elle se représente en femme lettrée, cultivée, etc. Alors la peinture est absolument virtuose au niveau des matières.
Ouais, mais
c'est... là, c'est comme si elle avait, elle est à la fois la modernité de Quentin de la Tour, et en même temps, elle annonce un petit peu une sorte de néoclassicisme du point de vue de la maîtrise, hein, que l'on verra plus tard chez Ingres et chez d'autres, et même chez David. Vous avez avec Alors Marie-Suzanne, elle a son nom de jeune fille, c'est Rollin, et ensuite elle s'est mariée à un certain Giroud. Voilà. Donc c'est Marie-Suzanne Rollin et ici Giroud. Alors là, j'ai trouvé cette peinture, la reproduction est d'une. Vous avez vu, il n'y a pas un seul pixel. C'est donc elle est d'une qualité remarquable, la reproduction. Alors là, ça. C'est totalement fascinant. Alors là, mais on sent que ce vêtement, c'est aussi le plaisir de pouvoir le peindre. Hein. C'est ce qu'on appelle un morceau de bravoure, évidemment. Marie-Suzanne Giroud. Alors vous voyez aussi ce qui est pas mal dans ces trucs-là, c'est les rencontres, hein, et les croisements entre des styles différents. On voit que c'est un siècle aussi qui ouvre. Il y a des confrontations, il y a des différences. Alors là aussi, c'est très beau. Alors ça, c'est compliqué. Elle fait un autoportrait aussi avec ses pastels. Cette fois-ci, c'est un portrait à la peinture à l'huile dans lequel elle se peint en train de peindre, de décide de faire un portrait au pastel, hein, d'un ami, etc. Et... ah non, que je suis bête. Ça, c'est le portrait de son mari. C'est son mari, qui est Giroud, qui... Non, en fait, non, excusez-moi, je me suis dit, Giroud, c'est son nom de jeune fille. Rollin, c'est son nom de femme mariée. Donc, Rollin, c'est son mari. Donc, Rollin fait un autoportrait où il est avec sa femme quand elle est en train de faire un pastel un brique, machin, truc. Hein. Et là, c'est... alors, ça c'est super. Hein. Et là, c'est aussi un... Vous avez des complicités d'artistique, on l'avait vu pas tellement Rosa Bacarriera, mais avec Sophonis Bandisola et puis Lalinia Fontana, vous avez vu que parfois c'était soit leur mari, soit leur père, soit leurs amis, qui étaient totalement complices. Là aussi c'est le cas, vous avez aussi très souvent des hommes qui vont être totalement complices et admiratifs de leur femme ou de leur sœur ou de leur fille artiste. C'est plus la société qui freine la plupart du temps. Là, par exemple, Rollin, effectivement, rend hommage au génie de sa femme. J'ai une portraitiste de sa femme. Donc, Rollin est ici, Giroud est là, et Hendrik Truc.
Portrait de
Wilhelm. Alors là, c'est Jean-Baptiste Pigalle, le sculpteur, et cette fois-ci, c'est effectivement un portrait de Marie-Suzanne Rollin. Alors, c'est les rapports entre aristocratie, artiste, intellectuel, les audaces de liberté, et puis en même temps l'académisme qui reste quand même, et puis y compris la norme au niveau des vêtements, des costumes, etc. Vous voyez qu'il y a un très très grand écart, mais qui justement est intéressant. C'est ça aussi qui va créer cette tension. Et on va la retrouver, cette tension, justement. Je ne l'ai pas fait exprès, mais un petit peu, c'est qu'on va la retrouver avec l'artiste suivant. Parce que là, on peut dire qu'on sera en état de tension maximum, à peu près tout petit peu la période juste suivante, c'est justement avec Goya. Puisque là, on va aborder Goya, et on va aborder aussi justement ce rapport avec un monde, une société qui est finissant. Et en fait... que ça soit Tiepolo à Venise, que ça soit Chardin, Fragonard, Watteau dans l'ancien régime à la française, ou que ce soit Goya, vous avez effectivement plein d'artistes qui sont confrontés à des mondes qui se finissent. D'ailleurs, c'est un truc tout bête, je lisais dans un hebdomadaire auquel je suis abonné, il y a un bouquin qui vient de sortir justement sur Tiepolo, Gian Domenico Tiepolo, témoin d'un monde finissant. Et il y avait cette idée du mondo nuovo, etc. Et le résumé du livre disait presque ce qu'on disait l'autre fois, c'est effectivement cette idée qu'on est à un monde de bascule, un monde de nouveau, et tout ça, alors que ça soit Tiepolo, que ça soit Fragonard, Chardin, ou que ça soit Goya, on est vraiment à la fin du XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle est quelque chose qui change, mais alors radicalement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des énormes différences, des individualités qui poussent, des structures sociétales qui sont encore en place, etc. Alors, Goya, c'est un monde... J'ai choisi de prendre comme œuvre repère, parce que c'est quand même le sujet du cours, Les Vieilles, hein, qui est à Lille, donc une peinture assez tardive de Goya. Alors Goya est mort vers 1824-25 en France, à Bordeaux, et il est né vers 1746, je crois. Comme ça. Je prends en repère parce qu'il a presque le même âge que le peintre français David. C'est pour ça qu'au niveau des chronologies, là en fait on n'est pas à la chronologie, on fait des éclairages sur des moments différents, sur des artistes qui sont souvent, et justement avec des comparaisons aussi qui vont être très intéressantes, puisque la différence cette fois-ci dans la politique dans chaque pays va être extrêmement marquante. C'est-à-dire ce qui se passe en France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Espagne ou en Angleterre. Ce qui fait que vous avez aussi, à la même époque, les artistes vont réagir avec des grandes différences. C'est-à-dire que la façon dont l'aristocratie anglaise ou l'aristocratie espagnole ou l'aristocratie française vont être traitées ou maltraitées ou bouleversées, ça change énormément de choses dans le rapport même au pouvoir, à l'art, aux commandes, à toutes ces choses-là. Y compris à la solitude, à l'action, etc. Alors Goya, justement, ici je crois, ainsi ça va, c'est que là j'ai trouvé un document de très bonne qualité. Et vous avez effectivement quelque chose qui est d'une cruauté terrible par rapport justement à un monde finissant, des aristocrates. Alors, chez Goya, ici très clairement, il s'agit aussi d'une misogynie, mais il n'y a pas que la misogynie, il y a aussi une misanthropie générale à la fin de sa vie. Donc c'est aussi c'est un cadre, mais dans lequel effectivement, là, il y a quelque chose qui est une misogynie construite au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de déception, frustration, maladie, etc. Je ne justifie pas, mais enfin, c'est comme ça, évidemment, que lui va le vivre. Alors, Quetta, évidemment, c'est cette idée d'un monde qui est encore plein de la parure et l'apparence, et qui se regarde dans un miroir, hein, qui se regarde ou qui ne se voit pas, avec des visages déjà de squelettes, édentés, etc. J'avais jamais vu la fiche. Et puis, là, vous avez évidemment Chronos, le temps derrière, qui s'amuse quelque part, avec cette fois-ci, c'est même pas une faux, c'est un coup de balai. Alors là, c'est encore plus cruel de la part de Goya, c'est même pas une faux qui faucherait, il n'y a même plus besoin de le faucher, il suffit de balayer comme les poussières, etc. Alors là, c'est une...
affreux.
Alors ça, c'est complètement hors de tous les styles de ce point de vue-là. Avec Goya, on est vraiment dans quelque chose qui est dans une liberté totale, dans la peinture, qui ne représente, qui ne correspond à aucun cadre académique, et d'ailleurs quand Goya fait cela, il est totalement solitaire. Ce sont des peintures qu'il va faire quasiment pour son propre usage. C'est l'époque où il est presque seul, dans ce qu'on appelle la Quinta del Sordo, c'est la maison du sourd. Par contre, ce qui est clair chez lui, c'est une virtuosité absolument stupéfiante dans les rendus de chair, matière, l'anatomie, dans une franchise incroyable, y compris de la touche, parce que à aucun moment il y a une illusion qu'on ne soit pas devant de la peinture. Il y a vraiment quelque chose même de l'épaisseur, des gestes, il y a vraiment des états de la matière qui sont très variés. Et puis, évidemment, cette espèce de crudité, de lucidité. C'est quelqu'un, Goya, c'est quelqu'un qui voit directement. On peut dire que Goya, c'est le témoin. C'est-à-dire qu'il ne ment quasiment jamais. C'est quelqu'un qui est effectivement qui a une certaine de franchise, y compris sur son regard, même si ça l'amène à témoigner de choses effectivement cruelles. Alors, ce rapport au temps qui passe, alors, il n'y a pas que les femmes, on verra un peu plus tard. Alors, il se trouve que ces deux peintures sont à Lille. Quelque part, les Quetal, qu'on a vu, est une réponse tardive, est une suite tardive de cette peinture qui est quand même, qui date de presque 20 ou 30 ans auparavant, où Goya présentait ici deux jeunes femmes au balcon, avec derrière des soupirants qu'elles ne regardent pas, avec le même type de vêtements et de peinture, c'est-à-dire que Goya, de ce point de vue-là, sera toujours dans cette même pratique de virtuosité picturale, comme on voit ici, avec y compris quelque chose qui est assez typique de sa part, surtout dans cette période, c'est l'utilisation du noir en peinture. Alors ça, le noir en peinture, c'est drôle, mais c'est assez rare. C'est assez rare, sauf qu'il y a des fonds sombres dans les terres obscures, Mais le noir comme couleur, alors on va le retrouver chez Goya, on le retrouve aussi, c'est drôle, la peinture espagnole l'a mis bien avant, hein, chez Murillo, chez Zurbarán, etc. Donc il y a quelque chose dans les traditions espagnoles très contrasté, avec une certaine dureté. Hein. Il y a aussi quelque chose qui sera assez typique aussi de Goya, c'est l'importance accordée au premier plan, hein, notamment avec cette idée justement du balcon, c'est que Goya, c'est quelqu'un, quand je parle de la frontalité, du témoignage, on a cette impression qu'on est devant la scène, y compris ce balcon qui est devant comme une grille. Manet, quelques années plus tard, va le reprendre. Manet, finalement, le reprend juste 60 ans plus tard, c'est tout. Hein, quand il va, Manet va faire le balcon, c'est en référence à celle-ci. Hein, toujours cette idée aussi que, quand on dit témoignage, c'est qu'on regarde pas loin, on regarde devant nous. Les corps chez Goya sont toujours devant nous. Alors, chez lui, c'est aussi de l'empathie. Et avec Goya, en fait, l'empathie, y compris pour le temps qui passe. Que lui aussi, il est vieillissant, il est sourd, il est malade. Quand il montre les femmes vieillissantes, lui aussi, il n'est pas terrible. Hein, à cette époque-là, on verra d'ailleurs son autoportrait, il n'est pas non plus trop. C'est un peu plus flatteur pour lui, mais il y a cette idée que lui aussi voit le temps qui passe et la mort approchée. Hein. Alors, les peintures de Goya témoignent, donc je dis, de cette espèce de franchise, de netteté, y compris d'audace, de liberté à la manière de peindre. L'incarnation aussi, là, on voit bien, autant il peut voir la chair qui vieillit, autant il va être sensible aussi à la chair et au corps quand ils sont bien vivants. Et justement, tout à l'heure, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est l'évolution de Goya. Des corps bien vivants aux tragédies. Il y a cette idée aussi, parce qu'en fait, il est extrêmement sensible au genre humain et aux personnes humaines, que ce soit les individus ou que ce soit le corps social. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, est effectivement extrêmement sensible à une sensibilité directe. Là, on peut dire que chez Goya, ce n'est pas intellectualisé. Il y a vraiment quelque chose qui est charnel, compris dans sa manière de peindre, dans son regard sur les autres, sur les gens, etc. Alors, Goya, comme beaucoup d'artistes, hein, donc espagnols, il a un milieu très simple, voire presque paysan ou rural, j'oublie toujours le nom de sa petite ville, mais en plein milieu de l'Espagne, du côté de Salamanque, je crois, dans Saragosse, c'est vraiment les endroits, l'Espagne chaude, etc. Puis en plus, les campagnes espagnoles et les petites villes espagnoles n'ont rien à voir avec les campagnes et les petites villes françaises à la même époque. C'est que l'Espagne a connu le phénomène effroyable au niveau économique, qui arrive dans certains pays du Golfe, pays pétroliers, c'est-à-dire la manne de l'or des conquistadors, hein, en fait, suffisait aux aristocrates à vivre comme des princes et n'ont quasiment jamais rien investi dans l'économie ou l'agriculture et les manufactures espagnoles. Ce qui fait que vous avez une aristocratie extrêmement riche, totalement déconnectée d'une réalité et que vous avez un pays qui, en fait, reste très très pauvre. Absolument presque arriéré au niveau des, y compris de l'éducation, au niveau des structures sociales, et puis au niveau d'implantation, de développement, ne serait-ce qu'il n'y a presque aucune manufacture, enfin, c'est très pauvre. Donc vous avez, quand on est un paysan espagnol à cette époque-là, on vient d'un milieu qui est extrêmement décalé, mais très très loin, alors qu'on peut dire qu'en France, il y a eu toujours des investissements, développement, exploitation des terres depuis des siècles, voire, et il n'y a jamais eu cette de décalage énorme. Donc le décalage est très grand et Goya justement vit ce décalage parce qu'il arrive, il va arriver d'ailleurs très jeune à la cour d'Espagne, il est très talentueux, il est très bon peintre, très bon dessinateur et donc très vite il pourra arriver à la cour d'Espagne. Donc si vous voulez, c'est encore aussi de ce point de vue-là, on peut le rapprocher de Watteau. C'est quelqu'un qui arrive dans un milieu qui est totalement étranger pour lui, mais à la différence de Watteau, qui est toujours resté un petit peu fragile, Goya, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, puissant, sensible, sensuel, séducteur, et qui va, pendant plusieurs années de sa vie, va être au contraire à fond dans cette espèce qui va jubiler, y compris de cette ascension sociale. Hein, alors que Watteau reste dans une sorte de critique évidente. Alors, d'autres peintures de Goya de cette période noire, justement, cette période finale de sa vie. Voilà, Judith Holofernes. Alors cette fois-ci, on ne voit pas Holofernes, hein, mais on peut imaginer que Judith n'est pas montrée ici comme une héroïne, mais y compris comme une femme dangereuse et menaçante. Alors, Vous avez, dans les peintures de Goya sur le monde féminin, là, là et là, quelque chose qui représente là, elles sont proches de la mort et elles sont presque caricaturales. Là, elles ont quelque chose de presque un petit peu cruel, comme si elles se jouaient des deux personnages fantomatiques qui sont derrière, hein, et comme si elles attendaient quelqu'un d'autre au balcon, hein, en tournant le dos à ceux qui sont là. Celle-ci coupe la tête de l'Oferne et elle n'a rien du tout de la beauté des Judith qu'on a pu voir auparavant. Mais vous avez en fait chez Goya aussi une misanthropie générale. C'est qu'ici, voilà encore deux vieillards, hein, qui sont représentés aussi de façon totalement caricaturale, avec un travail sur la peinture noire et sombre. Hein. Alors, avec des figures, là encore, hein, on est proche de la mort et du cauchemar, ça on verra aussi évidemment chez Goya. La peinture extrêmement épaisse, presque plus de contours, des effets d'ombre et de lumière, une peinture presque terreuse, et on reviendra un petit peu là-dessus aussi.